Chapitre 16, versets 7 à 43. Les versets 1 à 6 ont été traités avec le chapitre 15. Le cantique du début de la royauté. Le psaume de David, contenu dans ces versets, correspond à la pensée dirigeante des chroniques et diffère entièrement du cantique mentionné en 2 Samuel 22 et qui n'est autre que le psaume 18. Ce dernier se place tout à la fin de l'histoire de David, quand il est délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il célèbre les délivrances de l'Éternel à l'égard de celui qui se confie en lui, verset 2, délivrances qui ont commencé avec la sortie d'Israël hors d'Égypte, versets 7 à 15. Puis il expose les principes du gouvernement de Dieu envers les siens, avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce. Avec l'homme parfait, tu te montres parfait. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu es roide. Versets 26 et 27. Puis ces mêmes principes envers leurs ennemis. Verset 28. Cela n'exclut nullement la grâce envers ses bien-aimés, car tout ce qu'il y a de bon dans leur voie dépend de leur confiance en lui. Verset 31. Enfin, tous les ennemis ayant été vaincus, loin de l'Éternel est établi comme chef des nations et les peuples lui sont assujettis. Versets 44 et 48. Tel est en quelques mots ce magnifique psaume 18 que nous trouvons en 2 Samuel 22 comme le dernier hymne prophétique de David. Il n'est suivi au chapitre 23 que des dernières paroles du roi quand il s'humilie de sa conduite, reconnaît le juste gouvernement de Dieu envers lui, mais célèbre sa grâce aussi immuable que ses promesses et proclame la venue du juste dominateur que lui, David, s'était montré incapable de représenter ici-bas. Tout autre est le cantique de 1 Chronique 16. Il est l'hymne du commencement de la royauté, proclamé par l'établissement de l'arche en Sion, arche entrée enfin dans son repos, comme le trône de Dieu au milieu de son peuple. En effet, ce cantique se lie intimement au retour de l'arche. Alors, en ce jour, est-il dit, David remit ce psaume entre les mains d'Asaph et de ses frères. Ce psaume est appelé le premier pour célébrer l'Éternel. Le sujet n'est pas, comme en Samuel, la victoire sur les méchants, la responsabilité des saints et le gouvernement de Dieu à leur égard, mais la fidélité de Dieu à ses promesses, accomplie enfin par le retour de l'arche en Sion, quand Israël avait perdu tout droit à la conserver au milieu de lui. Mais avant de continuer l'examen de notre chapitre, je voudrais faire une digression en rapport avec son contenu et celui du livre tout entier que nous étudions. Il est de toute importance de remarquer que les voies de Dieu en gouvernement et ses conseils de grâce sont deux choses entièrement distinctes. Les conseils de Dieu et la manière dont ils devaient s'accomplir à notre égard existaient de toute éternité. Ils ont trouvé leur réalisation en Christ, l'homme parfait que Dieu a élevé à sa droite, nous donnant les mêmes bénédictions et la même gloire qu'à lui. En ce qui nous concerne, ces conseils de Dieu sont réalisés par pure grâce. Cette grâce est invariable, inaltérable, assurée pour toujours à ceux qu'elle a sauvés par la foi en Christ. Le gouvernement de Dieu est en contraste avec ses conseils. Ce gouvernement se lie à la responsabilité de l'homme et a existé dès le commencement de son histoire. Il s'est manifesté d'abord en Éden, où l'homme, innocent mais responsable, ayant désobéi, a été chassé du jardin et assujetti à la mort. Dès ce moment-là, le gouvernement de Dieu continue à s'exercer envers l'homme, responsable de se conduire dans ce monde d'une manière conforme à la justice, à la sainteté et à la bonté de son Créateur, qui récompense les bons et punit les méchants. Sans doute, il fait luire, d'autre part, son soleil sur les justes et sur les injustes, parce qu'il est un Dieu de bonté qui, au lieu de vouloir la mort du pécheur, le pousse à la repentance par son support et sa longue patience. Il n'en est pas moins vrai que les méchantes actions des hommes portent leurs conséquences, la plupart du temps pour eux-mêmes dès ici-bas, et souvent pour leurs enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. Mais au cas où ils ne seraient pas jugés dans ce monde, Le dernier mot du gouvernement de Dieu à leur égard sera prononcé dans le jugement final. Quant aux élus, il faut bien se souvenir qu'en vertu de la chute et du péché, dès lors inhérente à leur nature, aucun d'eux, pas même un seul, n'est juste. Mais Dieu, par la foi et par l'esprit qui en est le sceau, leur communique une nouvelle nature, un cœur capable de l'aimer, de l'honorer, de le servir. Ils sont les objets de la grâce et deviennent, par la foi en Christ, les objets de la faveur de Dieu. Ce fait immense répond au conseil de Dieu qui, de toute éternité, voulait trouver, par Christ, son bon plaisir dans les hommes. Pour obtenir ce résultat, il fallait vaincre Satan, qui a engendré et provoqué le péché, abolir le péché lui-même, annuler toutes ses conséquences. C'est le résultat de l'œuvre de Christ à la croix. Mais la nouvelle nature qu'il possède ne détruit en aucune façon la responsabilité du nouvel homme. Il doit conserver la position de relation avec Dieu et avec Christ dans laquelle la grâce l'a placé. Ayant encore la chair, le vieil homme en lui, il est responsable de se conduire devant Dieu selon la nouvelle nature et non selon l'ancienne. La puissance de la nouvelle vie, le Saint-Esprit, l'en rend capable. Telle est la raison du gouvernement de Dieu envers les élus, ses enfants. S'ils font le bien, ils sont les objets de la faveur de Dieu ici-bas, s'ils font le mal, de son jugement. Et ce jugement est d'autant plus prompt et direct qu'ils font partie du peuple racheté. Le jugement commence par sa maison. Quant aux élus individuellement, il est impossible que ce jugement, qui ne peut les atteindre que sur la terre, ait un autre but que leur restauration finale. Quant à l'Église, corps de Christ, elle n'est jamais jugée. Mais l'Église, maison de Dieu, peut être jugée définitivement, et le Seigneur viendra sur elle comme un voleur. Il n'y a qu'un cas où le jugement soit définitif et sans miséricorde, celui où le monde, l'homme pécheur, religieux ou non, est réfractaire à tous les appels de la grâce. Outre les voies de Dieu envers les rachetés, envers sa maison et envers les hommes, il y a un gouvernement plus général. Dieu est attentif à tout ce qui concorde avec les préceptes de sa justice et de sa sainteté. L'homme qui honore son père et sa mère, ou bien le jeune homme de l'Évangile, aimable sans être converti, prospère sur la terre. L'homme intègre de cœur et qui ne fait pas tort à son prochain en retire des avantages terrestres, car le gouvernement de Dieu s'exerce sur la terre, quoique son siège soit dans le ciel. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura plus de trône, ni, par conséquent, de gouvernement. C'est ce gouvernement, soit envers les saints, soit à l'égard des bons et des méchants, dont les livres de Samuel et des rois nous entretiennent. Tandis que les chroniques nous parlent des conseils et de l'élection de grâce. Seulement, elles établissent en premier lieu, soit dans le cas de la descendance naturelle, soit dans l'exemple de Saül, que la chair ne peut avoir part à ces conseils. De là vient, comme nous l'avons remarqué, que les fautes des élus y sont entièrement passées sous silence, sauf quand elles sont nécessaires pour montrer que Dieu peut même s'en servir pour accomplir ses conseils de grâce. Il en fut ainsi des événements qui marquèrent le retour de l'arche. Revenons maintenant à l'examen de notre chapitre. Le cantique qui y est rapporté, versets 8 à 36, est composé des fragments de trois psaumes. Au verset 8 à 22 correspond le psaume 105, versets 1 à 15, au verset 23 à 33 le psaume 96, versets 1 à 12, enfin au verset 34 à 36 le psaume 106, versets 1, 47 et 48. Première section. Les 15 premiers versets du psaume 105 sont un appel à célébrer l'Éternel à cause de son alliance faite avec Abraham, jurée à Isaac, établi pour Jacob comme statut, pour Israël comme alliance perpétuelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan, le lot de votre héritage. » Versets 16 à 18. C'est la pure alliance de grâce, la fidélité de Dieu à ses promesses, en contraste avec l'alliance de Sinaï, basée sur la responsabilité du peuple. Le passage cité se termine par ces mots il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d'eux, disant « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Versets 21 et 22. Nous ne trouvons pas un mot de l'oppression d'Israël par les nations à la suite de sa désobéissance. Tout est libre grâce dans ce passage. Cela est d'autant plus frappant que la deuxième partie du psaume 105, omise ici, ne pourrait pas cadrer avec le but que nous venons de signaler. En effet, au verset 16 à 22 de ce psaume, nous voyons Joseph rejeté par ses frères et vendu comme esclave, puis établi dominateur des nations, ce qui nous ramène à l'histoire de la responsabilité d'Israël. Au verset 23 à 45, nous trouvons la délivrance d'Égypte, la marche à travers le désert, sous la conduite de Moïse et d'Aaron, enfin l'entrée du peuple en Canaan, afin qu'ils gardassent ses statuts et qu'ils observassent ses lois. Et nous savons à quoi aboutit ce régime de la loi. Cette première partie laisse donc entièrement de côté l'histoire du peuple responsable pour faire ressortir la grâce et les promesses bien avant la loi. Deuxième section. Les versets 1 à 12 du psaume 96 contiennent l'appel fait à Israël de célébrer l'Éternel parmi les nations, et les nations elles-mêmes sont appelées à lui rendre la gloire et la force, disant partout « L'Éternel règne ». Cette section est remarquable par les omissions de détails qui cadrent avec le règne de Christ, mais ne cadreraient pas avec le règne de David. Ainsi, notre verset 23 omet le cantique nouveau du psaume 96, verset 1, qui est toujours en rapport, dans la parole, avec une scène nouvelle, soit sur la terre, soit dans les cieux. Or, cette condition ne sera remplie que sous le règne de Christ. Notre verset 27 dit « La force et la joie sont dans le lieu où il habite ». Et le psaume au verset 6 « La force et la beauté sont dans son sanctuaire ». Ce n'était pas encore la beauté du règne de Christ, quoique ce fût la joie du règne de David à son début, et le sanctuaire n'avait pas encore été bâti pour l'arche. De même, notre chapitre dit au verset 29 « Entrez devant lui » au lieu de « Entrez dans ses parvis » verset 8 du psaume. Et cela toujours en rapport avec l'état transitoire du règne de David. Enfin, les mots du verset 33 « Car il vient pour juger la terre » remplacent les paroles du psaume au verset 13 « car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Une telle plénitude de gouvernement ne pourrait correspondre au règne de David. Troisième section. Cette troisième section de notre chapitre, versets 34 et 36, est une citation des versets 1, 47 et 48 du psaume 106. Le premier verset, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours », est bien approprié au caractère des chroniques et au moment où David donnait son premier psaume. Ce cantique sera chanté dans le millénium, mais il pouvait l'être à l'aube du règne de David et du règne de Salomon, 2 Chroniques 5, verset 13, au moment où Dieu réalisait en type ses conseils de grâce envers la royauté. Notre passage ne traite que de l'établissement de l'arche en Sion et omet absolument tout le reste du psaume, car ce dernier contient l'histoire de la responsabilité et de l'entière chute du peuple dans toutes les circonstances qu'il a traversées, soit en Égypte, soit dans le désert, soit en Canaan. Cette énumération aurait été en désaccord avec le but de notre livre. Enfin, nos versets 35 et 36, correspondant aux deux derniers versets du psaume 106, regardent en avant vers l'accomplissement définitif de toutes les bénédictions énumérées dans notre chapitre et qui ne seront pleinement réalisées que par la délivrance d'Israël d'entre les nations, temps futur où retentira cette louange. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'éternité jusqu'en éternité. Le peuple de David se joint par anticipation à cette louange, et tout le peuple dit « Amen » et loua l'Éternel. Verset 36. Après ce cantique, nous trouvons au verset 37 à 43 l'ordre provisoire du culte avant l'établissement définitif de l'arche dans le temple de Salomon. Désormais, l'arche de l'Alliance était placée en Sion, et c'est, comme nous l'avons vu, le point capital du premier livre des Chroniques en rapport avec la royauté. L'arche était placée sous des tapis, dans une tente dressée pour elle par David. Le tabernacle du désert, avec l'autel d'airain et les autres ustensiles du sanctuaire, était à Gabaon. C'était là qu'on offrait l'holocauste du matin et du soir. David établit ici le personnel qui devait remplir ces deux offices. À Gabaon, l'offrande des sacrifices, à Jérusalem, la louange en présence de l'arche. C'est là aussi que devait retentir ce chant dont la durée est celle de l'Éternel lui-même. Célébrez l'Éternel, parce que sa bonté demeure à toujours. Verset 41. Parmi ceux qui font le service devant l'arche, Obed-Edom occupe le premier rang, au milieu de tant de lévites choisis par David. Il est le témoin et l'objet des bénédictions que l'arche apportait avec elle, le témoin spécial des conseils de la grâce. Tout ce passage, qui a trait au service de l'arche, est omis dans le second livre de Samuel.